Le campus.
Sur ton poste, tu tournes un peu, c'est à gauche.
88.3 FM.
À ce moment-là, vous branchez votre radio et vous mettez le son sur grosse, grosse sauce.
Vous entendez, monsieur Anderson ? Ça, c'est le son.
Radio Campus, 88.3.
Tu te sens seul le troisième mardi du mois, de 20h à 21h? Moi aussi. Alors rejoins-moi pour faire des LGBTs sur Radio Campus Angers. Culture queer, anecdotes, philo, art. La soirée s'annonce haute en couleurs sur LGBTs.
Bonsoir, bienvenue à tous sur LGBTs et ce soir on se retrouve pour une heure de commérage intensif et dragueur. Alors ce soir c'est un peu spécial parce qu'on se retrouve avec Luciole. Ça va Luciole ?
Ça va très bien Charlie et toi ?
Ça va. Nouille est pas là, donc voilà, gros bisous à Nouille. Donc c'est parti pour une petite émission spéciale à deux. Donc aujourd'hui, on va parler de drague, principalement. Et du coup, Luciole, est-ce que tu veux te présenter ?
Je suis un peu timide, mais je vais y arriver. Je m'appelle Luciole, je suis drague queer, née à Angers, membre du collectif La Wig, qui est un collectif qui s'est monté aux Beaux-Arts d'Angers.
Wow. Voilà.
Et je suis aussi étudiante aux Beaux-Arts d'Angers, dans la même promo que toi, Charlie.
Ah bon ?
Exactement.
Et donc, du coup,
on a dû se croiser une fois.
Peut-être, c'est peut-être aussi à la Wig qu'on a dû se croiser.
Oh oui, c'est toi, du coup.
C'est donc toi. Okay.
Névrose.
C'est moi, oui. Bonsoir. Et donc au menu ce soir, on va discuter de l'histoire du drag, on va un petit peu debunk le personnage de RuPaul et l'émission Drag Race. On a pas mal de choses à dire, je pense.
Oui, effectivement.
Et donc du coup, pour ce soir, pas d'horoscope et peut-être pas de review série, mais comme nous sommes des dragues et que nous sommes toujours très bien organisés, bah, on va improviser. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir s'il y aura une review ou pas. On y va ?
Tout à fait. On y va. Let's go.
LGBTs.
Alors pour commencer, je voulais prendre le temps quand même de discuter de l'histoire du drag, forcément. Alors, est-ce que tu as une petite idée d'où vient le drag, toi, Luciole ?
Alors moi, dans ma tête, c'était né... Allez, 19e siècle, il me semble.
Eh ben, c'est pas vrai.
Alors, pas les toutes premières traces, mais le terme drag, du coup, voilà, dans les salons, je ne me rappelle absolument plus de l'artiste qui a lancé ça, mais dis-moi plus.
Bah, du coup, les premières en fait, formes de divertissement, c'était du drag. Donc, en fait... ça a toujours existé et ça a été considéré comme une des premières formes de divertissement remontant jusqu'au théâtre antique grec. Et donc, dans plein de cultures antiques en Occident, les femmes, elles n'avaient pas le droit de performer sur scène. Donc, que ce soit au théâtre ou en danse, tout type en fait de performance. Et donc, c'était les hommes qui jouaient le rôle des femmes. Et donc, apparemment aussi en Grèce antique, même dans des rituels religieux et des cérémonies, certains hommes étaient attendus en fait à s'habiller en femmes, voire à se mettre en drague sur un... C'est plus ou moins la même chose, mais voilà. Donc, l'histoire du théâtre est... Du théâtre, ben voilà. L'histoire du drag est très, très liée au théâtre depuis le tout début. Et en fait, on voit même le prolongement avec le théâtre shakespearien au XVIe siècle, où aussi, pareil, les femmes, elles n'avaient pas le droit de monter sur scène. Et donc, il y a eu énormément, en fait, de comédiens et plus tard aussi de comédiennes qui se travestissaient sur scène, comme par exemple Sarah Bernhardt, qui a été la première superstar, comme on l'entend aujourd'hui, qui a eu beaucoup de rôles au théâtre et qui a joué en fait aussi énormément de personnages masculins. Donc autant des drag kings que des drag queens qui existent depuis à peu près toujours. Et je me suis aussi posé la question, en fait, autre part dans le monde, comment... C'est quoi le drag autre part qu'en Occident ? Et en fait, je suis surtout tombée beaucoup sur d'exemples en Philippines, aux Philippines où, en fait, avant la colonisation par l'Espagne au milieu du 15e siècle, il y avait, c'était hyper habituel en fait que les hommes ils portent des habits de femmes. Et en fait, avec la colonisation, l'Espagne elle a mis en place une répression très violente. Donc, on parle d'exécution en fait pour homosexualité. Ouais. Donc toute forme de queerité était en fait impossible, mais plus tard, donc au début du XXe siècle, ça a changé et maintenant le drag fait une grosse partie en fait de la culture théâtrale, mais aussi générale en fait aux Philippines et puis les Philippins, big slay,
oui,
toujours
tout à
big
fait.
Big slay, bravo.
Énorme slay.
et donc en fait, le drag a toujours existé et a énormément évolué selon les lieux et les cultures. Et ça a pris des tournants très différents selon les époques, les influences culturelles, tout plein de choses comme ça. Et maintenant, on peut observer quand même qu'avec Drag Race, il y a quand même une sorte de normes très spécifiques qui s'est rendu très mainstream. C'est quand même assez intéressant à voir, de voir en fait à quel point aussi ça a permis de visibiliser cette communauté-là et en même temps de la faire répondre à certaines attentes. Et donc voilà, historiquement, le drag, c'est quand même quelque chose qui sort de la communauté gay masculine et qui a toujours fait partie, donc en tout cas pour les drag queens, de la culture gay. Et ça s'est de plus en plus ouvert aussi à plein d'autres choses. Et dans la culture drag, il y a beaucoup d'influences, notamment aussi l'influence du ballroom, qui est vraiment pas du tout négligeable.
Tout à fait.
Avec le fonctionnement des familles, avec les drag mothers, donc c'est emprunté à la culture ballroom, dans les communautés racisées américaines où les gens se retrouvaient pour walk categories, donc représenter des catégories, de la danse, donc du fucking évidemment, et différentes performances un peu vestimentaires et d'attitudes. Et donc les drag families se calquent vraiment sur les families dans la ballroom, où en gros ça recrée un peu une communauté comme une famille choisie. Et dedans il y a la drag mother qui est un peu cette figure de mentor.
Oui, il y a vraiment ce côté prendre soin de ses enfants et les accompagner dans le drag. Voilà, les aider, leur donner des tips pour se maquiller, s'habiller, trouver et aider à rencontrer son personnage drag.
Oui, d'ailleurs, nous n'avons pas de parents.
Non, on s'est fait tout seul en fait.
voilà, on se fait solo ici. On n'a pas le temps. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire du drag. On peut passer à la suite.
LGBTIS.
Donc tu as choisi la musique pour cette émission, est-ce que tu veux bien la présenter s'il te plaît, Luciole?
Oui, avec grand plaisir. Alors c'est Bizarre de Michel et les Garçons, qui est un groupe de copaines angevines qui font de la pop. Allez tout de suite écouter l'album, c'est incroyable. Et sur scène, ça balance un max, comme on disait dans les années 80. Donc voilà, je vous laisse écouter ça.
Donc c'est Michel et les Garçons avec le titre Bizarre.
Le reflet sanglant du mur. Oh, mais pourquoi ce soir mon cœur vibre tant? Oh, mais dis-moi si toi aussi tu ressens. Libre, mon âme sortie du cauchemar. Ton amour brûle ma mémoire. Il se peut bien que ce soir on puisse nous trouver bizarre. Danser ensemble sous le blizzard. Bizarre. On s'était dit trouver ça bizarre.
Et on est de retour, je me suis coincé le doigt dans mon casque, tout va bien. Alors du coup on est de retour pour discuter cette fois et débunk sur le personnage de RuPaul et bah, l'émission Drag Race forcément.
Oh là là, tellement à en dire.
Beaucoup trop à en dire et l'un ne va pas sans l'autre évidemment. Donc RuPaul c'est vraiment un personnage hyper complexe et donc ça tout le monde le sait plus ou moins mais vraiment j'ai digué un maximum, j'ai cherché en profondeur et il y a des choses à dire, il y en a des choses à dire.
Je n'en doute pas, j'ai pas ce courage d'aller creuser autant, mais je t'écoute.
Ben, j'ai été choc-barre, comme disent les jeunes. Mmh. Et donc, du coup, c'est une personnalité qui est quand même très importante dans la communauté, qui a permis de donner une visibilité inégalée jusqu'à présent, en fait. Donc, merci pour ça. Mais bon. C'est quand même une personne très problématique pour beaucoup de raisons et donc on va s'attaquer à ça. Donc RuPaul, il est né en 1960, donc c'est un petit vieux, il a 63 ans. Il est né à San Diego dans une famille originaire de Louisiane et donc ce que je trouve très drôle comme anecdote, c'est que son prénom, RuPaul, c'est aussi son prénom de naissance. Son prénom de drag, okay. C'est wow. Son prénom. Et donc, je trouve ça rigolo.
Ça fonctionne, donc.
Bah, pourquoi pas. Et donc, il a commencé sa vie d'artiste en école d'art, évidemment. Donc, une école de performing arts. Donc, performance au sens où on l'entend bah, aux États-Unis. Donc, plutôt musique, performance au sens très large et artistique du terme. Et dans les années 80, il est musicien et réalisateur à Atlanta. Donc, il est dans le cinéma underground. Il réalise un film et sort un album en même temps. Et galère un peu, bah, en fait, à vivre de son art comme tout artiste, finalement.
Waouh, mais mille vies, en fait.
Non, mais en fait, c'est ça qui est incroyable chez RuPaul, c'est qu'il a eu un milliard de vies différentes. Et c'est presque dur à croire que c'est vrai.
Il a dû mentir sur son CV, c'est sûr. Non.
C'est certain. En fait, il n'a même pas à mentir tellement il a fait des trucs.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, dans les années 90, il commence à beaucoup performer à New York, entre autres au Pyramid Club, donc, qui est un lieu mythique de la scène club punk et techno à New York. Et il évolue dans le milieu Club Kid. Et donc, Noé, c'est son special interest, mais comme il n'est pas là, je vais devoir... expliquer un petit peu à sa place. Donc, le Club Kid, c'est quoi? C'est une forme de drag qui n'est pas forcément basée sur le genre et c'est vraiment du bricolage, des tenues super loufoques, faites avec plein d'objets. C'est souvent le truc le plus bizarre qu'on puisse imaginer, c'est du Club Kid. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et en gros, ça a commencé dans les années 80-90 et c'était tout simplement des personnes qui traînaient dans les soirées et en fait... En étant déguisé, ça amenait du monde et donc ces artistes-là étaient payés à être déguisés dans les soirées pour que les gens se ramènent dans les soirées. Donc ça n'existe plus du tout comme forme de hosting en quelque sorte.
Oh waouh, je veux que ça revienne.
J'adorerais faire ça comme métier, j'adorerais.
Ah oui.
Et en fait...
s'il vous plaît.
Et la communauté Club Kid, donc il y a eu énormément d'histoires autour de ça, notamment avec un de ses fondateurs, Michael Alig.
J'ai cru en entendre parler.
Ouais.
Qui, Moi qui suis passionnée de true crime. Oui.
Ouais. C'est très true crime. Bah, en fait, il a un petit peu fait trop de ski et il a vrillé, il a eu des dettes avec la drogue et bah, il a tué quelqu'un. Et donc, à partir de ça, bah, ça a été un peu le moment où vraiment le Club Kid a énormément décliné. Mais bon, avant que ça en arrive là, bah, RuPaul faisait partie de cette communauté-là où... Du coup, bah, il amenait les gens en soirée avec des tenues super loufoques. Et donc, RuPaul participe à plein de festivals, dont un qui s'appelait la Wigstock, ce que je trouve très drôle. Et donc, c'est devenu vraiment une personnalité hyper influente dans le milieu queer à New York. Et donc, c'est à partir du moment où RuPaul va jouer dans un clip des B-52s, un groupe de New Wave, où en fait, on le voit 10 secondes dedans à tout casser, mais ça le propulse un peu plus loin déjà que là où il était. Et donc, il continue à jouer dans des émissions télé, un petit peu des trucs par-ci, par-là, à faire ses petits trucs. Et en fait, au fur et à mesure, il se retrouve à jouer dans des films. Et le film dont j'ai envie de parler, évidemment, c'est « But I Am a Cheerleader ». Est-ce que tu l'as vu, Luciole ?
Non, pas encore.
Eh ben, voilà,
Il est dans ma liste, ça ne saurait tarder, mais pour le moment, pas vu encore.
Bah, je recommande très très fort ce film parce que déjà le film est super drôle et en plus d'être drôle, ça parle de sujets très importants, donc ça parle de thérapie de conversion. C'est un film qui a été réalisé par Jamie Babbitt et qui est sorti en 1999 avec Natasha Lyonne dedans, donc déjà Natasha Lyonne, bravo. Et en fait dedans, RuPaul joue l'intervenant auprès des garçons. Comme quoi lui il a été homosexuel et comme quoi il est guéri, et de voir en fait RuPaul jouer ce personnage avec un t-shirt floqué bleu tout moche avec écrit straight is great et que ce soit RuPaul qui le porte, juste l'ironie,
j'adore les paradoxes.
c'est hyper drôle et donc ce film est très joli, donc voilà, voir RuPaul là-dedans, c'est assez drôle. Et petite parenthèse quand même sur les thérapies de conversion, parce que c'est explicitement interdit en France depuis janvier 2022, ce qui est quand même très très tard. Hein.
Oui, complètement.
C'est
beaucoup trop tard.
Très très tard. Et en fait, récemment, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée pour interdire les transitions aux personnes trans mineures. Donc déjà, il faut savoir que les mineurs ne transitionnent quasiment jamais et c'est plus une question de bloqueur de puberté pour pouvoir ensuite faire les démarches une fois que les mineurs ne sont plus mineurs. Et en fait, cette proposition de loi propose de mettre en place des thérapies de conversion à l'échelle nationale pour les mineurs. Donc c'est très très grave.
Ouais.
Et c'est important de ne pas laisser passer cette loi qui est proposée par deux personnages très transphobes, Céline Masson et Caroline Eliachef. Donc... on vous aime pas, on vous déteste.
Non, du tout, du tout.
Voilà.
Gros
donc,
caca.
Je ferme la petite parenthèse, mais du coup, donc RuPaul joue dans But I Am a Cheerleader. Et donc, après ça, il fait encore d'autres trucs, machin. Et en 2009, c'est là que commence Drag Race. Donc aujourd'hui, il y a 16 saisons qui sont sorties aux USA et la franchise s'est exportée un peu partout dans le monde. Il y a Drag Race UK, Mexique, Belgique, France, Allemagne, Italie, Philippe, vraiment tout ce que vous voulez. Il y a tout, il y a vraiment tout qui existe. Et ce qui est intéressant aussi avec les franchises étrangères, c'est que ça peut permettre de bien comprendre la culture queer dans d'autres pays. Et ça, c'est quand même un aspect hyper intéressant de la franchise. Et donc, pourquoi RuPaul est controversé ? Est-ce que tu as une petite idée, toi, Luciole ?
Il y a plein de controverses différentes qui ont eu lieu avec RuPaul, mais moi, je dirais que par rapport à l'émission en elle-même, il y a beaucoup le fait de proposer qu'un seul type de drague et de s'y cantonner et de venir en fait brimer les personnes qui sortiraient de ces cases qu'on impose aux drag queens, à savoir sans barbe, avec des tenues impeccables, des laces ultra bien collées, des wigs peignés et j'en passe.
Bah, ça a été une critique et beaucoup de discussions qui sont nées ces derniers temps, beaucoup que j'ai pu voir sur TikTok, où beaucoup de gens discutaient du fait de pourquoi est-ce que Drag Race, ce serait uniquement un lieu où les drag queens sont en compétition, pourquoi il n'y aurait pas des drag kings aussi ou des drag queer, ce qui est quand même, qui n'existe pas en fait dans Drag Race. Et aussi, RuPaul a eu plein d'accusations qui lui... collé. Oui.
Alors, par rapport au fait qu'il n'y ait que des drag queens dans Drag Race, je vais lancer un gossip que j'ai entendu. C'est pas vérifié du tout, mais il semblerait qu'en fait, Drag Race France ait voulu inclure des drag kings dans l'émission et que la franchise américaine leur a dit non, 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 ça on se le garde sous le coude, on veut l'exclusivité. Ce qui fait que ça n'a pas pu arriver dans Drag Race France.
Ah, je savais pas du tout.
Voilà.
Bah, bravo la France, franchement Drag Race France, incroyable.
Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des interventions de drag king au sein de Drag Race France pour pouvoir les visibiliser.
Bah, c'est bon à savoir. Et donc RuPaul a eu du coup sur ce sujet-là déjà le fait de d'accepter la participation d'autres drag type king ou queer. Qui refuse. Il a aussi pendant très longtemps refusé qu'il y ait des personnes qui ne sont pas des hommes cis à participer à l'émission, où il a affirmé en 2018 que si le drag était fait par quelqu'un qui n'était pas un homme cis, eh bien ça perdait de tout son sens. Bon, on est ici deux à ne pas être des hommes cis et à faire du drag. Je pense que ça va, on est plutôt...
Ça se fait très bien, hein. On sait enfiler des vêtements, se maquiller, mettre une perruque.
Ça va, on devrait
monter
se débrouiller,
sur scène.
Je pense. Et donc ça a quand même l'air d'être un statement qui a évolué chez RuPaul, Dieu merci, parce que depuis il y a eu pas mal de participants, participantes, surtout des participantes, qui sont autres que des hommes cis. Il y a eu Sacha Colby, surtout, à laquelle je pense, Gotmik aussi.
Oui, Gotmik, gros bisous à Gotmik.
Je suis tellement amoureux de Gotmik, incroyable.
Je comprends.
Et donc voilà, mais RuPaul a été beaucoup confronté sur des insultes transphobes, beaucoup de propos transphobes, donc déjà... C'est un premier point. Et aussi, RuPaul a été accusé d'énormément de comportements racistes. Alors, RuPaul est afro-américain, mais il y a énormément de personnes racisées qui dénoncent en fait ses agissements. Et donc, déjà pour commencer, quand il travaillait et qu'il était en Club Kid, tout ça, il a déjà fait des looks avec la Confederate Flag américaine. Ce qui est plutôt pas ouf.
Plaisir.
Voilà. Et donc il y a aussi le fait que RuPaul ait été dans la scène Club Kid, qui est pas mal discutée parce que c'est un milieu qui est principalement blanc, et donc ces influences là sont très visibles dans ses looks et sa manière de penser. Donc voilà, c'est un aspect sur lequel il faut quand même réfléchir. Et en fait l'aspect plus ballroom, c'est Michel Visage, son acolyte, qui l'a apporté dans l'émission. Mais RuPaul ne vient pas du tout du ballroom, alors que pas mal de gens pensent que c'est le cas. Et les deux pires trucs que RuPaul a fait, je les garde pour la fin. RuPaul a fait une blackface.
Waouh.
Et donc j'étais vraiment choquée en fait des images, parce que j'ai vu la vidéo et c'est vraiment une caricature vraiment hyper insultante et j'aurais pas pensé.
Oui, parce que faut y aller quand même pour être une personne racisée, et réussir à faire une blackface, c'est vraiment aller loin dans le cliché et la stigmatisation en fait.
Clairement. Et en plus dans la vidéo, en fait, il commence avec cette blackface vraiment terrible. Allez voir les images sur internet si ça vous intéresse. Et en fait, ensuite, il y a une sorte de transition, genre ah, et là je deviens belle. Et il y a RuPaul avec ses dégaines habituelles. Donc c'est assez outrageant.
Excusez-moi, j'ai un peu vomi dans ma bouche.
Voilà, exactement. Et il y a eu des moments aussi pendant l'émission où il a fait des trucs vraiment pas terribles, quoi. Il y a une fois surtout où dans l'émission Down Under, donc Australie-Nouvelle-Zélande, où une des participantes a été confrontée par RuPaul parce que RuPaul a appris qu'elle avait fait des blackface auparavant. Et donc, comment il présente le truc, il lui demande, donc quand elles sont toutes sur scène, là en ligne, fin du défilé, blablabla, il lui demande de en fait faire face à ses accusations et de se défendre. Et la meuf se défend, j'étais jeune, blablabla. Et RuPaul choisit en fait de la garder dans l'émission et de faire comme si c'était rien passé. Elle a absolument aucune conséquence. Alors que c'est déjà arrivé que RuPaul pète un câble et vire quelqu'un de l'émission parce qu'elle portait une robe H&M, par exemple.
Ouais, Les priorités sont pas les mêmes, visiblement. Hein.
Bah, ça fait réfléchir quand t'as ses priorités, ouais.
Dans mon souvenir, on a quand même une émission qui a été en partie censurée parce qu'une des concurrentes a commis des agressions sexuelles. Donc,
ouais.
pourquoi ce traitement inégal pour...
Apparemment, du coup, selon les agissements de RuPaul, une mauvaise robe, c'est vraiment pas bien. Par contre, le racisme, ça va.
Mmh, oui.
Donc voilà.
Et une queen à barbe, n'en parlons pas.
Oh là là.
Terrible.
Donc voilà, RuPaul, c'est pas parce que RuPaul a pas mal servi à la communauté qu'on doit idolâtrer cette personne et qu'il y a plein de choses qui font vraiment réfléchir. Loin de là. Très, très loin de là. Et donc, ça, c'est un truc dont on a pas mal discuté aussi entre nous. Entre drag et même dans la communauté, de l'évolution de Drag Race. Il y a vraiment une énorme évolution, en fait, entre les premières émissions qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qui sort en ce moment, notamment en termes de budget. Et j'ai même pu voir des témoignages et un peu des statistiques de Queen, en fait, qui ont pris des crédits plus gros encore que pour leur maison pour participer à l'émission. Ce que je trouve assez affolant, quand même. Parce que bon, le niveau de Drag Race, c'est quand même attendu d'être le niveau le plus élevé de drag possible, machin. Mais du coup, ça change complètement, en fait, l'image de ce que c'est le drag.
Mais oui, ouais, ouais. Hallucinant. Hypothéquer sa maison pour des robes.
Bah ouais, et wow. Surtout que le drag, de base, c'est quelque chose qui vient de la débrouille, c'est quand même des artistes, donc c'est des personnes précaires. Et donc, il y a cette performance sociale d'opulence qui fait partie du drag, certes, mais là, ça prend... une mesure qui est vraiment démesurée, en fait.
Mais oui, oui. Oui, on se rappelle de Paris is Burning, où pour le coup, pour défiler, elle volait des manteaux de fourrure dans la rue à des passantes bourgeoises, volait dans les magasins, bricolait des pantalons, des tenues avec ce qu'elles avaient sous la main et coller, se donner des conseils, s'échanger des trucs. Et en fait, on est en train de perdre ça dans le drag mainstream, du coup, avec la vision mainstream qu'on nous donne du drag.
Et puis même dans les codes esthétiques, il y a plein de choses qui passent pas dans Drag Race, alors que c'est pas forcément obligé d'être ça, comme le padding, donc le fait de se rembourrer les fesses et les hanches, le tucking, enfin il y a énormément de trucs qui sont très normalisés dans Drag Race et qui font pas forcément en fait partie du drag en tant que tel, que faut pas oublier que il y a pas que Drag Race.
Oui, mais parce que dans RuPaul Drag Race, il y avait ce truc de ressembler au maximum à une femme, et en fait il y a des queens à bites, des queens à gros seins, des queens à petits seins, des queens à cuplas, et plein de formes de drag différents, parce qu'on est différentes et
exactement. Donc voilà.
L'éclectisme.
RuPaul Drag Race, voilà, il faut y réfléchir.
LGBTIS.
Alors du coup maintenant, j'avais quelques petites questions à te poser, Luciole. Comment as-tu découvert le drag ?
Alors, il y a quelques jours, je t'aurais dit, comme beaucoup de personnes, en découvrant RuPaul Drag Race, mais en y réfléchissant mieux, j'ai ce truc de... Première fois que j'ai pu entendre parler de drag, c'était dans la bouche de mes parents qui appelaient ça du travestissement, voilà, des travelos, et une vision plutôt négative qui allait avec. J'ai un père qui tient souvent des propos homophobes, transphobes, mais qui, à côté, nous offrait depuis notre enfance quatre personnages féminins qu'il incarnait à la perfection. En dîner de famille, récupérer le châle de ma grand-mère, un collier de perles, et c'était parti pour Tata Chantal, qui est un peu bourgeoise, qui aime boire du champagne et manger des fraises. Et on avait aussi le droit à Paola. C'était Paolo le jour, Paola la nuit, une danseuse de flamenco complètement enflammée et caliente. Et puis, on avait aussi Françoise. Bon, Françoise, elle avait la main sur le cœur, des sentiments quand elle est avec. Bon, elle fume 10 paquets de clopes par jour, mais voilà. Et puis, ce truc de sortir de la douche. Alors, mon père sortait de la douche, toqué. Il passait son sexe entre ses jambes et courait un peu dans toute la maison en se cachant la poitrine et les yeux en criant « me regardez pas, je suis toute nue
!» Mais quelle icône.
Donc voilà, mon père est une drag queen sans même le savoir.
C'est ça qui est incroyable quand même.
Mais oui, parce que c'est des personnages qui l'incarnent à la perfection, c'est super naturel, c'est pleinement lui en même temps, et il y prend tellement de plaisir, personne ne se moque de lui au moment où il incarne ce personnage-là, parce qu'en fait, je pense que les gens, au fond, savent que c'est lui.
Bah ouais. Mais c'est super touchant ce que tu dis, parce que dans les discussions qu'on a pu avoir, on a beaucoup discuté du fait que faire du drag, ça permet d'être pleinement soi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça?
Alors, il y a cette notion d'alter ego qu'on a dans le drag, où beaucoup s'imaginent que c'est un personnage qui va être ou totalement à l'opposé de nous, ou bien totalement inventé, mais en fait, c'est vraiment un personnage qui découle de nous, qui du coup se nourrit des peurs, des relations qu'on a nous et qui est un peu plus cette version exacerbée de nous-mêmes que la société ne nous autorise pas à être en fait. Voilà, parce que ce serait compliqué au quotidien de porter ma magnifique moustache de drague. Je serais dévisagée dans la rue en permanence, avoir des réflexions comme cette fois où on a pu traverser le centre-ville en drague, où on nous hurlait que... Enfin, hurler, c'est le carnaval ou quoi. Et vraiment... Ouais, on aimerait pouvoir être accepté. En fait, oui. Comme ça au quotidien aussi, parce que en fait, c'est nous.
Et puis aussi, tu me parlais du fait que, en soi, le drag, c'est une forme d'art hyper complète, parce que ça englobe autant des formes plastiques comme la couture, la performance, la danse, l'acting. Enfin, il y a tellement d'aspects, en fait, ça permet de prendre un contrôle tellement énorme sur tellement d'aspects, d'expérimenter tellement de choses différentes, autant en termes d'attitude que de jouer des rôles, que de comment on veut se présenter publiquement. C'est vraiment un terrain de jeu tellement vaste.
Oui, je pense que c'est ça que j'adore dans le drag. C'est que du coup, Il y a souvent ce truc de quand t'es enfant, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Moi, j'avais tellement de métiers en tête, mais en fait, le drag, ça me permet de tous les faire.
C'est ça, mais c'est ça. J'aurais toujours voulu être une rockstar, et je peux faire semblant d'en être une si j'ai envie.
C'est ça.
Je vais être danseuse étoile, et je peux faire semblant si j'ai envie.
C'est ça, avec le drag, je peux être pilote de ligne. Je peux faire tous les métiers que j'ai en tête, et je peux même être une licorne.
Waouh! Tout est possible en drag, et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur les différents types de drag qui existent, parce que y a le drag queen, plutôt féminin, drag king, plutôt personnification masculine, et le drag queer, auquel tu t'identifies. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus?
Oui, avec plaisir. Le drag queer, c'est vraiment un espèce de fourre-tout, en fait. Il y a vraiment ce truc de « Allez, j'ai envie de récupérer tels aspects du drag queen, tels aspects du drag king. Allez, mais en même temps, je veux être une créature, un alien. Et du coup, je décide de mixer tout ça et vraiment, en fait, de pouvoir avoir cette créativité quasi sans limite. À venir récupérer tout ce qui nous plaît, piocher à droite à gauche comme je peux faire aussi pour mes costumes, justement, où j'ai beaucoup ce truc de récup et de revaloriser les déchets, en fait, pour pouvoir leur donner une nouvelle forme. Et quand je dis déchets, mes costumes sont pas forcément crasse-pouette, hein, vraiment loin de là. Il y a des trucs qui font très couture, alors que c'est vraiment des tissus récupérés, des boulons, des trucs comme ça. Et je viens faire des ornements avec de la broderie.
Ouais, c'est ça la beauté du drag, justement, c'est de transformer des choses qu'on a déjà. Voilà, méditer sur cette grande phrase.
C'est ce
phrase.
Qu'on appelait le transformisme avant, en plus. Le drag. Bah oui. Il y a vraiment cette notion de transformer.
Ça fait réfléchir ou quoi? Je vous fais réfléchir ce soir. Et il y a aussi un aspect qui m'a fait beaucoup rire, dont on a parlé. C'est aussi la place de la religion dans le drag. Parce que toi comme moi, on a un peu grandi dans des sphères plutôt religieuses, oh, catholiques. Oui. Et donc, en plus, comme on a vu dans l'histoire du drag, de base, donc c'était aussi quelque chose qui était performé pour certains rituels religieux. Et donc, en discutant ensemble, on s'est beaucoup rendu compte aussi que tous les accoutrements religieux, cérémoniels, ils sont très codifiés. Enfin, c'est vraiment une forme
c'est
de drag,
des,
quoi.
C'est vraiment des dragues.
C'est vraiment... Les prêtres sont des dragues.
Du drag catho, mais du drag quand même.
Exactement. Et du coup, je me suis un peu penchée sur le sujet. Et il faut sachez que le pape Benoît XVI, autour de 2008, a été élu une des personnalités les plus fashion de l'année.
Oh, wow.
Parce que ses tenues étaient juste particulièrement riches en ornements, dorures, tout ce que tu veux. Et donc, selon les papes...
Pierres précieuses aussi, hein, brodées. Ah ouais. C'est quand on voit les trésors des cathédrales, c'est d'une valeur incroyable. Voilà.
Ouais.
Catholic is giving us opulence.
Ah mais clairement, et du coup aussi cette relation à l'opulence dans l'église a beaucoup évolué selon les dignitaires qui étaient au poste, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, ouais, Benoît XVI, une des personnalités les plus fashion de l'année 2008.
J'adore cette idée-là.
Je suis fan de cette information.
Surtout qu'en plus, on notera quand même dans le rituel, et j'ai surtout ce truc des messes sous le rite tridentin. Catho tradit, la messe en latin, tout ça.
Ah là là.
Où du coup, le prêtre ne s'habille pas lui-même.
Excusez-moi.
Attention, on vient lui enfiler délicatement. Il faut trois enfants de messe pour pouvoir.
C'est chelou.
Déshabiller et ramiller le prêtre avec ses vêtements de messe. C'est plutôt incroyable à voir.
Et donc, du coup, tout ça pour dire que les prêtres sont des drag queens et que j'adore le dire. Et aussi en soi, les images et les ornements, les codes, les symboles sont énormément aussi réappropriés dans le milieu de la haute couture parce que c'est marrant.
C'est ça, de la haute couture et puis aussi du milieu queer parce qu'en fait, je pense qu'on a besoin de se réapproprier ces codes-là qui ont pendant des années passé leur temps à nous détruire.
Des siècles.
Voilà, oui. Oui, des années, j'ai été...
T'as été gentille, là.
J'ai été gentille. Mais pendant des siècles à nous détruire, nous démonter, nous délégitimer. Et en fait, y a de plus en plus ce truc qui est en train de naître, de blasphémer, comme eux pourraient le dire, qui est en fait pour nous juste une façon de se réapproprier ces codes-là pour mieux comprendre qui on est et se réconcilier en fait avec cette foi-là. Je pense que j'ai vraiment ce truc de se réconcilier avec la foi de mes parents.
Je te suis un peu sur cette démarche-là parce que aussi... tout le mouvement du coup qu'on appelle plutôt bibli queer même en termes d'imagerie par exemple le clip là de Lil Nas X où il fait de la pole dance jusqu'en enfer, enfin il y a tellement d'exemples, il y a un reportage Trax sur Arte bibli queer, on a énormément discuté ensemble qui est super si ça vous intéresse je vous invite à aller le regarder et ouais Le drag, c'est un moyen de vie, c'est une philosophie, c'est un voyage, donc un peu comme une destination spirituelle, finalement.
Oui, tout à fait, névrose, là c'est névrose qui parle, on est d'accord.
Hein, quoi? là, tout de suite, on va écouter une musique qui s'appelle Sweet Transvestite du Rocky Horror Picture Show, donc film sorti en 1975, si je dis pas de bêtises.
Il me semble que c'est ça.
Il me semble que c'est ça, j'ai bien appris ma leçon. Et qui a été réalisé par Jim Sharman, et donc ce titre qui est absolument génialissime.
Iconique.
On écoute tout de suite.
How do you do, see, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. If you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Bite.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. A sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Quel banger!
Oh wow!
C'est qu'est-ce que j'aime,
un de mes morceaux
ce
préférés.
Son. Vraiment en boucle dans mes oreilles toute la journée, il n'y a pas de problème.
Complètement, mais toute la bande-son du Rocky Horror.
Juste le
incroyable.
Rocky Horror, en fait.
Voilà, oui.
Juste le Rocky Horror.
Même s'il est controversé.
Il y a des scènes qui aujourd'hui ne passeraient plus et qui sont quand même discutables et discutées, encore heureux.
Ça est controversé aussi du fait que ce soit Tim Curry qui joue le rôle d'une personne trans et que Tim Curry soit un homme cis.
Oui, clairement, c'est une discussion qui est importante à avoir, parce que pour pourquoi faire jouer des personnes cis pour jouer des personnes trans si on voilà. peut leur donner de
Parce qu'il y en avait dans les années 70 aussi, hein, donc...
C'est clair, mais bon...
Très compliqué d'en trouver.
Ce film, quand même, très très punk et très joli.
Complètement, waouh, l'esthétique, le... Oh, ouais. Tout.
Magnifique. Et donc du coup, pour bientôt conclure cette émission, Luciole, toi tu fais partie de la WIG et moi un petit peu aussi.
Oh, aussi, aussi.
Oui.
Si, mais... aussi, beaucoup. Je suis à la co-création de la WIG, mais tu en fais clairement partie.
Bonjour, président.
Non, on est sur une... On est sur une anarchie.
L'horizontalité avant tout.
C'est ça, voilà.
Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la WIG ?
Et du coup, je peux vous présenter la WIG. Donc, comme je le disais au tout début de l'émission, la WIG est un collectif qui s'est monté au Beaux-Arts d'Angers, donc qui n'en dépend pas, mais qui est né à la suite du festival de performance de l'école l'année dernière, festival On va pas cramer l'école, au sein duquel, Charlie, tu nous as proposé de monter un drag show.
J'ai forcé, hein.
Et tu as forcé, tu as tellement bien fait de forcer. Parce que, vraiment, les personnes qui sont dans la WIG maintenant, en fait, n'osaient pas monter sur scène. Je pense qu'on a beaucoup ce truc de remise en question, de légitimité permanente. Charlie, tu es revenue me voir souvent pour me demander si je voulais monter sur scène. Et je t'ai dit, il y a deux jours du festival, du drag show du festival de perf, oui, si j'arrive à faire mon costume en deux jours. J'ai réussi à faire mon costume en deux jours. Et donc, ce collectif-là s'est monté à la suite de ce drag show, et c'est un collectif de performance et de conscientisation queer. On y propose et on aimerait faire encore plus d'ateliers, mais on y propose donc des ateliers pimpage, découverte de son personnage drag, des scènes aussi, puisqu'on a pu participer au talent show du BDEL CER, enfin les membres de la WIG, mais pas sous le nom de la WIG, et au garage, notamment. Mmh. Encore merci, le garage, de nous avoir fait monter sur scène. C'était vraiment incroyable.
Sûrement à bientôt au garage.
Sûrement à bientôt au garage. Je On a des petits trucs dans les tuyaux. On garde le secret quand même. Vous serez les seuls au courant. Donc je reviens, des ateliers pimpage, ateliers drag, mais aussi des ateliers autour de la théorie queer, que ce soit des ateliers type table ronde, mais on fait surtout des marches performatives. C'est Lilith, une des membres, qui propose ça la plupart du temps. Marches réflexives performatives. Je suis en train de me perdre dans ma tête.
C'est déjà pas mal d'informations en soi.
Voilà, mais plein d'activités aussi, des projections aussi de films queer pour faire rayonner la culture queer à travers l'école.
Ah là là. Et puis aussi, c'est un collectif qui est assez frais, c'est nouveau. Ça va faire un an à peu près.
Tout à fait, oui, ça va faire un an du coup, qu'on est monté sur scène.
Existe. Et ça va encore avoir le temps de se développer de plein de façons différentes et je nous fais confiance pour ça.
Ah oui, on va porter ça et voilà. On va le porter loin.
C'est ça.
C'est ce qu'on espère.
LGBTIS.
Alors, pour les braves qui sont restés jusqu'à la fin, pour savoir s'il y avait ou pas une review de série. Donc, oui ?
Oui, on peut en faire une, tout
Allez.
À fait.
Donc, est-ce que tu as une série ou un film qui a une place particulière dans ton cœur ?
Complètement. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais vraiment incroyable. C'est Heartstopper. Une série dispo sur Netflix qui a des personnages quasi 100% queer et qui nous raconte l'histoire de collégiens, de vrais collégiens, pas joués par des gens de 27 ans, mmh. vraiment, et qui découvrent en fait leur, leur attirance sexuelle ou non.
Ok.
Et qui du coup, voilà, évoluent dans leurs questionnements, leurs interactions sociales, et c'est fou de douceur, vraiment, c'est un petit bijou, ça m'a donné envie de ronronner tout le long, vraiment des moments où on se dit que tout pourrait basculer et partir sur quelque chose de très mauvais, mais en fait tout se passe bien au final, puisque les gens communiquent et que les choses se font dans la douceur, même si des gros enjeux de la communauté queer sont soulevés quand même dans cette série, mais voilà. Je vous conseille vraiment
Heartstopper, donc.
Heartstopper, voilà, qui est si doux en termes d'image et de personnage et de tout, tout, tout est trop doux.
Super. Et moi, du coup, c'est un animé que j'ai commencé hier et que je suis en train de dévorer sur les conseils de Nouille, hein, toujours. Qui s'appelle les carnets de l'apothicaire, et en fait ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Mao Mao, qui de base évolue en fait dans un milieu assez pauvre, il me semble que ça se passe en Chine, je veux pas dire de bêtises mais je pense que c'est ça, et donc son père est apothicaire et elle traîne beaucoup en fait dans un bordel où il y a des prostituées qui s'occupent d'elle beaucoup, comme elle a pas de mère, machin, et elle se fait enlever pour et vendre en fait au pavillon interdit où il y a les concubines qui habitent et des eunuques. Donc il y a pas d'hommes, pas d'hommes à proprement parler. Donc c'est plutôt sympa. Et on suit ce personnage principal donc dans plein de d'intrigues parce qu'elle est goûteuse du coup, donc elle goûte les repas pour voir s'ils sont empoisonnés ou pas. Et il y a plein d'intrigues quasiment uniquement féminine en fait, donc c'est hyper intéressant aussi d'un point de vue historique, comment ça se développe, les personnages et puis leur position sociale aussi, que ce soit les eunuques ou du coup ces concubines là, même les servantes, donc tout plein de positions sociales très différentes, puis c'est un peu bête, c'est marrant, voilà, le carnet de l'apothicaire, okay, pas mal, chouette. C'est sympa, ça se mange bien.
Si, j'aurais peut-être un film à recommander aussi, je sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler à un moment, c'est le Rocky Horror Picture Show, qui pour le coup, voilà, comme on l'a dit, c'est un film qui est iconique, qui est très représentatif de plein de choses, qui du coup... autour de son histoire, aussi l'histoire de la sortie de ce film mérite qu'on s'y arrête, puisque c'est un film qui n'a pas fonctionné à sa sortie en cinéma et qui du coup a été relégué au rang des projections de minuit, seulement en projection de minuit, les places se sont vendues comme des petits pains. Et c'était toutes les personnes marginales qui se retrouvaient dans ces salles de spectacle pour venir voir le Rocky Horror Picture Show. Pardon.
Non, très très long d'ailleurs, c'est super relou
voilà.
À dire.
Pour ça, généralement, on l'appelle le Rocky Horror pour les intimes. Pendant ces sessions du Rocky Horror, les gens se balançaient du pop-corn, des sodas, et au fil du temps, se sont mis en place des shows sous l'écran qui venaient reprendre les différentes scènes et différents morceaux de cette comédie musicale en se drag, en vrai, ouais. En vérité, c'était du drag, vraiment. Voilà, on se drag cosplay des personnages pour pouvoir les incarner sous l'écran en direct. Et donc, voilà, on est clairement sur de la performation de quelque chose d'autre. Donc, voilà.
LGBTise. Donc,
Pardon.
Bon, je suis perdue sans mon petit nouille là. Il me. Ah, sa place est vide. J'ai mis mon petit doudou à sa place pour.
Oui, un peu de verre pour rappeler nouille.
Ouais, c'est ça.
Des bisous nouille, on t'embrasse.
Des gros bisous à nouille. Et puis, on se dit à dans un mois pour la prochaine émission, la prochaine LGBTise. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Gros bisous, bisous, bisous.
LGBTise. LGBTise. LGBTise.